Bonsoir à tous, bienvenue à Saint-Eustache, c'est la rentrée. Voilà, bienvenue à Marc Bernot. C'est notre sixième année, mais pour toi c'est même un peu plus, puisqu'avec le père Géraud, tu avais effectivement déjà proposé quelques parcours bibliques. Donc on vous propose cette année, après des années, vous savez, autour de... Il y a eu joie, plaisir et bonheur, il y a eu filiation, paternité, maternité, fraternité... Qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu la foi, les grandes figures de la foi. Je ne me souviens plus, on a une capacité d'oubli. En tout cas, cette année, on vous propose « Prenez et mangez ». Donc, les repas, la nourriture, manger dans la Bible. Alors, je pense que si, comme moi, vous faites l'expérience d'aller sur un moteur de recherche sur Internet pour voir, par exemple, les occurrences... qui pourraient être nourriture et Bible, par exemple. Les réponses qu'on vous propose, vous allez avoir des milliers de réponses, mais en tête, vous avez uniquement des réponses qui concernent les lois alimentaires, ce qui touche le kasher, le pas kasher. C'est très frappant, j'ai essayé cet après-midi de taper nourriture et Bible, et vous voyez que vous avez une conception du religieux extrêmement légaliste qui apparaît, et ce ne sera pas du tout notre angle d'attaque, même si évidemment à un moment nous parlerons aussi de ces fameuses lois alimentaires qui sont un des marqueurs identitaires de la culture juive. Par ailleurs, vous voyez aussi un certain nombre de réponses qui concernent la diététique. Il y a des gens aujourd'hui dans une mouvance un peu New Age qui cherchent aussi du côté de la Bible des réponses à leur quête de bien-être, de mieux-être, et qui cherchent peut-être la recette de la jouvence éternelle, ou en tout cas qui font un usage de la Bible un petit peu instrumental, qui cherchent dans la Bible des recettes toutes faites. Vous savez que la Bible, c'est finalement l'entretien infini avec une parole, avec une personne, avec un sujet qui nous sollicite et qui fait de nous des sujets, qui empêche de réifier notre propre conscience, notre propre vie. Et donc, c'est plutôt dans cette optique un peu rabbinique d'entretien avec une parole qui nous remet sans cesse dans la vie, qui nous empêche précisément de transformer nos lectures en objets de consommation ou en denrées périssables. Je file volontairement cette métaphore alimentaire. C'est plutôt dans cette perspective-là que nous entreprenons ce parcours de lecture. Donc je ne vous donnerai pas de recette de diététique et je ne vous ferai pas non plus un cours sur... Nous ne vous ferons pas un cours sur les lois alimentaires, les prescriptions rituelles dans la Bible. Alors on mange beaucoup dans la Bible et c'est la raison pour laquelle on a pensé que c'était important de choisir ce thème. Prenez et mangez, vous savez que... C'est quand même par ces mots que le Christ demande qu'on le fasse vivre, qu'on fasse mémoire de lui encore aujourd'hui, par la manducation, par l'ingestion, qui est quand même le geste le plus intime. Il y a quelque chose là de très troublant, qu'il puisse nous rejoindre jusqu'au plus intime et au plus dégoûtant même de notre vie organique. Mais c'est ainsi qu'il a choisi d'entrer en communion avec nous, précisément par l'acte de manger et non pas par l'acte de contemplation esthétique, par exemple, qui était valorisé dans la culture grecque. Chez Platon, vous savez, la connaissance, c'est une contemplation, c'est une théoria, on regarde, l'œil de l'âme accède à une sorte de vision béatifique qui ne dit pas encore son nom, mais le Christ prend délibérément le modèle du repas. Alors je disais qu'on mange beaucoup, effectivement, on mange rarement seul dans la Bible, ou alors comme Élie, qui, vous savez, qui est nourri par les corbeaux que Dieu lui envoie, mais c'est avant la rencontre de la veuve de Sarepta. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu, et en général, le repas est effectivement, et c'est normal pour une tradition proche orientale, est un lieu précisément où le sens de nos vies se révèle. Il y a donc des repas de séparation, comme le dernier repas du Christ, mais aussi des repas de retrouvailles. Joseph et ses frères, l'enfant prodigue, Emmaüs, les 11 disciples, les 11 apôtres sur la plage qui font griller du poisson, qui font un barbecue, comme tu dis. Barbecue Pascal. C'est aussi le lieu de rencontre, d'hospitalité, d'accueil, de partage, comme à la Chênaie de Mambré pour Abraham, qui, selon une vieille tradition d'hospitalité, reçoit les visiteurs inconnus, les étrangers. C'est aussi, ça peut être, un lieu de concurrence, un lieu de rivalité, un lieu qui révèle les rivalités. On pense à Ésaü et Jacob qui essaient de faire manger leur père, qui essaient de préparer le mets le meilleur, ou bien Marthe et Marie, évidemment, ou encore les fils de Zébédée qui veulent siéger à la gauche et à la droite, au banquet final, au banquet eschatologique. Ce peut être aussi un lieu d'intrigue, un lieu de dévoilement, comme Aman qui se révèle dans le livre d'Esther face au roi et à Esther, ou bien le festin de Balthazar, vous savez, avec les lettres qui apparaissent, Manet, Tessel, Phares. Et je sais que dans la tradition réformée, on ne lit pas ce texte qui est dans le livre de Daniel et qui est un texte grec. Ce peut être aussi un lieu de dévoilement de l'injustice. On lisait l'autre jour le fameux texte d'Amos sur les vautrés, c'est-à-dire ces personnes qui, vous savez, qu'on dînait, on prenait les repas allongés, couchés à table. Et il parle des vautrés, on pense aussi aux mauvais riches, bien sûr. Le mauvais riche qui, d'une certaine manière, exhibe sa richesse par le faste ostentatoire de ses repas. On peut penser aussi à ce que dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, lorsqu'il dit « Lorsque vous faites le repas du Seigneur, ne mangez pas comme des païens. Certains se pressent, certains ont de quoi manger, d'autres n'ont rien. Et finalement, vous mangez votre propre malédiction. » Ce peut être aussi un lieu de remise à égalité. Je crois que c'est la dimension la plus forte des repas dans la tradition juive. Jésus qui mange avec les exclus, qui mange avec des pécheurs. Lorsqu'il appelle Lévi, Matthieu, immédiatement après, il dîne chez Lévi, chez Matthieu, avec des pécheurs et au scandale de ceux qui sont là et qui observent ça. Il se fait inviter chez Zachée. Zachée, c'est un peu le bourgeois gentilhomme, c'est quelqu'un l'opinion publique juge probablement non seulement pécheur, mais aussi probablement un peu ridicule. Et Jésus décide d'aller manger chez lui le soir de leur rencontre. C'est aussi un lieu qui peut faire place aux femmes. C'est effectivement, non pas leur place, mais la manière dont la culture du Proche-Orient peut les faire intervenir, mais aussi les enfants. Et je pensais au texte de la multiplication des pains. Vous savez que c'est par un enfant, par le don d'un enfant de poisson et de pain, que peut se faire ce repas. Donc le lieu du manque, mais aussi le lieu du trop-plein, un lieu révélateur de la réalité, donc un lieu très réaliste, mais aussi un lieu d'utopie, puisqu'il annonce souvent le banquet eschatologique. Et je terminerai cette ouverture en vous citant le fameux texte d'Isaïe. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait retenu pour cette année. Texte magnifique où Isaïe annonce la fin des temps comme un banquet. Le Seigneur, le Tout-Puissant, va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse et de vin vieux, de viande grasse succulente et de vin vieux décanté. Il fera disparaître sur cette montagne le voile tendu sur tous les peuples, l'enduit plaqué sur toutes les nations, il fera disparaître la mort pour toujours. Donc vous voyez la fin de l'histoire envisagée comme un festin, un banquet, et nous le disons quelquefois dans nos Eucharisties, heureux les invités au festin des noces de l'agneau, au banquet, c'est une image qui réapparaîtra dans l'Apocalypse. Chaque année, lorsque nous avons ici la messe de la Corporation des charcutiers, nous lisons ce texte, sur les vins décantés, les viandes grasses, succulentes, etc. Et c'est toujours un bonheur de prêcher au mois de novembre sur ces textes. Alors, nous allons commencer notre parcours de cette année avec, évidemment, le premier repas et le premier interdit alimentaire qui est le fruit interdit. Voilà, la fameuse pomme qui n'en est pas une, puisque vous savez que la pomme, c'est un jeu de mots. Pomum en latin, ça désigne tout fruit, et je crois qu'il faut justement ne pas hésiter à faire fonctionner notre imaginaire, parce que si on réduit, si on croit déjà connaître ces textes avant de les lire, c'est une erreur. Donc il faut y voir à la fois la figue, la grappe de raisin. Je sais qu'à Vézelay, sur les chapiteaux de Vézelay, on voit du raisin pour le fruit interdit. Pour les Arméniens, c'est la figue. On peut y voir d'ailleurs toutes sortes de symboles, mais le mot pomum est un mot très, très large, et le mot malum, qui désigne le mal, hein, le fruit de l'arbre du bien et du mal, désigne aussi en latin la pomme, mais précisément le fruit pomme. Donc il y a un jeu de mots qui vient de la Vulgate, qui vient de Saint Jérôme, entre pomum, malum, et ça a fini par donner la golden que nous connaissons et qui malheureusement a peut-être réduit la portée de ce texte. Marc-Alain Wakening, un grand rabbin, parle du complexe de la pomme, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. On lit ce texte, ou si tu veux dire quelque chose.
Alors, tu disais que le livre n'est pas un livre de recettes. D'abord, merci beaucoup de nous inviter et puis de collaborer encore une fois. Tu disais que la Bible n'est pas un livre de recettes, mais j'ai un livre de recettes tirées de la Bible, en fait, avec un très beau livre illustré. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est avec donc une recette de soupe de lentilles à propos d'Ésaü, une recette de blanquette pour Abraham qui reçoit les trois anges. En fait, c'est des recettes qui sont inspirées de tous les épisodes bibliques. C'est des recettes qui sont bien faites avec un petit parfum oriental. Enfin bon, c'est pas tout à fait exactement un livre de recettes toutes faites de tirer de la Bible non plus, mais ça peut donner envie effectivement de manger. Alors dans les textes, j'ai mis quand même au début, juste au début du chapitre, dans le chapitre 2, là où il est question de la place de l'homme dans ce jardin d'Éden, parce que ça me semblait être en rapport avec pour introduire le chapitre 3. Et en particulier, je trouve qu'on remarque que finalement, dans ce récit de création, qui est le deuxième récit de création, parce qu'il y en a un premier au début, dans ce deuxième récit de création, la première parole que Dieu donne à l'humain, de toute éternité, j'allais dire, c'est « tu pourras manger ». Et en fait, même en hébreu, c'est même plus que ça, c'est « pour manger, tu mangeras ». Souvent, il y a un redoublement. On pourrait demander à notre professeur d'hébreu biblique qui est là. D'ailleurs, si vous voulez apprendre l'hébreu biblique, on a un professeur qui commence un nouveau groupe. Et donc, c'est un redoublement pour insister, qui fait une insistance finalement, qui est à l'inaccompli. Donc ça peut être un commandement, mais ça peut être aussi une promesse. Mais donc, la parole de Dieu finalement dans la Bible, si on prend ce récit de création, s'ouvre sur l'ordre de manger. C'est quand même, il n'y a plus désagréable quand même. Mais c'est aussi, ça veut dire la place, l'importance incroyable qu'a la nourriture dans le projet de la Bible pour nous. Et ça me semble intéressant, parce que si vous voulez la nourriture, on en est peut-être plus conscient maintenant que jamais, mais ça joue sur notre santé future finalement. Et la nourriture, c'est là que l'image de prenez et manger du Christ est intéressante. C'est qu'en fait, quand on mange des nouilles, des fruits ou des beefsteaks, on ne devient pas une nouille, une pomme ou un beefsteak. Ça nous nourrit de l'intérieur et on est plus ou mieux nous-mêmes, ou on est nous-mêmes un peu moins en forme si on mange que des bonbons Haribo, qui peuvent être bons pour le moral par contre. Donc le manger finalement, c'est quelque chose qui est à la source finalement de ce que nous serons plus tard. Et donc dans ce commandement de manger, moi j'y vois... On ne peut pas nous demander d'être parfait, bien que Jésus le demande, mais c'est plus comme une visée, si vous voulez. On ne peut pas, mais peut-être que nous donner comme ça un objectif dans la nourriture, dans ce que nous mettons en amont de notre croissance, c'est une assez bonne piste, finalement. Par exemple, on ne peut pas nous commander d'avoir la foi, on ne peut pas se forcer. On ne peut pas nous commander de pardonner. On fait comme on peut, si vous voulez. On ne peut pas nous commander d'aimer... On aime quand on aime, mais on peut nous donner la mission de dire au moins, tu vas nourrir ton être en vue de, en vue d'être plus en forme. Et ça, je crois, parce qu'effectivement, on ne peut pas se forcer à avoir la foi, mais on peut nourrir sa recherche de foi. Et à mon avis, ça marche quand même. Donc, si vous voulez, je crois que c'est une bonne idée quand même. Le reste, à la limite, ne nous appartient pas, mais... Déjà, nourrir son être, soigner la nourriture, chercher ce qui peut être la bonne nourriture, c'est une piste. Vous pouvez prendre un petit papier éventuellement. Il y a un petit papier qui est derrière la porte maintenant, en fait. Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne piste de travailler donc sur la nourriture, savoir comment on nourrit notre être. c'est quelque chose auquel on peut faire attention. Et à mon avis, les commandements alimentaires qui nous semblent un peu ridicules, de ne pas manger de cochon, par exemple, alors que bon, manger des cochons, c'est quand même une assez bonne piste, parce que c'est facile à élever les cochons. Mais s'il y a ce commandement de ne pas manger de cochon ou de ne pas manger de cygne, par exemple, alors on pourrait dire que c'est des commandements alimentaires qui sont dus à des principes prophylactiques, de conservation, etc. Mais je ne crois pas, en fait. Parce que quand on nous dit de ne pas manger de cygne, bon, ce n'est pas une idée qui me serait forcément venue à la tête. Je crois que c'est plus des raisons symboliques, en fait. C'est-à-dire ne pas manger du cochon, ça veut dire ne pas se transformer en cochon, que mangeant n'importe quoi, tout ce qui traîne. Ne pas manger du cygne, ça veut dire il ne faut pas manger cette sorte d'orgueil du cygne qui est tout blanc, qui glisse avec un air noble en battant un peu des ailes. Bon, c'est peut-être une figure. Ce n'est pas de ça dont on devrait se nourrir pour être en forme, finalement. Je pense que, vous voyez, c'est un peu ça. Et bon, ensuite, il faudrait étudier en détail chacun de ces symboles, de ces commandements alimentaires. Mais je crois que c'est quand même beaucoup plus profond et spirituel que des petits principes prophylactiques pour éviter de se porter mal. Bon, on peut y avoir à l'origine un certain nombre de conseils prophylactiques. Mais je pense que c'est plus profond que cela, plus symbolique que ça, plus spirituel que ça. Alors en tout cas ici, le récit de la Genèse, c'est bien entendu un mythe, un récit qui était une prédication. Il n'y a pas eu Monsieur Adam et Madame Ève, ou plutôt il y en a plein des Monsieur Adam et Madame Ève, c'est chacune et chacun d'entre nous, bien sûr. Et donc, c'est comme ça que le Christ en fait l'interprétation. Quand il parle, on l'interroge sur le mariage ou sur le divorce, je ne sais plus. Il dit, n'avez-vous pas lu au commencement que le Créateur, les filles, hommes et femmes, donc en fait, si vous voulez, il dit, cet homme et cette femme de la Genèse, c'est vous, finalement. On est à la fois l'homme et la femme, l'Adam, le terreux, et l'Ève, Ève, la vivante de ce récit. De la Genèse. Donc on prie, le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu, Yahvé, Elohim, prie l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden. Donc là aussi, je crois qu'il y a quand même un programme qui est donné. Un jardin, c'est effectivement un lieu, on va le voir, où il y a plein de fruits à manger, en fait. C'est plus un verger, quasiment. Et Éden, c'est, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas traduit Éden, et pourquoi ils ont décalqué le mot hébreu au lieu de le traduire. Ça fait comme une sorte de lieu mythique, alors que c'est le jardin des délices, jardin des vrais délices. Et ça dit quelque chose du projet de Dieu. Donc la nourriture, elle n'est pas faite, c'est pas simplement des médicaments amers qu'il faudrait manger pour se porter mieux, des sortes de potions de vitamines mélangées à des épinards, je ne sais pas quoi. Mais c'est quelque chose qui est fait pour être délicieux, pour notre bonheur, pour nous régaler. Donc là aussi, je crois que par rapport à ce qu'on peut faire une certaine culture de la tristesse, finalement, du sacrifice de soi, je ne crois pas que ce soit en cause dans le programme qui est en tout cas proposé ici. Mais on est placé dans le jardin des délices. Bonsoir.
Bonsoir.
Il y a des petits papiers qui sont sur la chaise à côté de vous. Dans le jardin des délices. C'est peut-être le premier point. Donc, si délice il y a, c'est en mangeant, mais c'est aussi en cultivant et en gardant cette culture. Donc là, il y a peut-être l'idée de produire des fruits. C'est ce qu'on verra peut-être plus dans Jean 15, dans le deuxième texte que nous aurons aujourd'hui. Mais en tout cas, donc pour manger, tu mangeras de tout arbre du jardin. Voilà. Donc, on peut manger... En fait, c'est même. Faudra manger tous les arbres du jardin, en fait. Faut même goûter de tout, en fait. Faut goûter de tout. Mais effectivement, il y a quand même un arbre qui est interdit, l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, du bon et du mal. Et bonsoir.
Bonsoir.
Il y a des petits papiers sur la chaise en entrant. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, s'ils ont mis dans la Bible, dans cette traduction, tu devras mourir, c'est que comme en fait, ils ne meurent pas à la fin, ils se disent, bon Dieu, c'est un peu gouré, c'est gênant, donc en fait, le texte s'est trompé, on va un peu le corriger. C'est un peu amusant, si vous voulez, parce que, je veux dire, il ferait mieux de mettre ce qui est marqué, ce serait pas plus mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, vous voyez, la question, c'est effectivement se développer ou mourir. dans la façon dont on se nourrit finalement.
On lit le texte peut-être.
Oui, on va lire le texte maintenant.
Je pense que voilà. Quelqu'un veut bien.
Est-ce qu'on lit tout ou est-ce qu'on s'arrête
On lit tout. On peut.
Oui, on n'est peut-être pas obligé de lire la fin.
Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'homme : tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme : vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. La femme répondit au serpent : nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas afin de ne pas mourir. Le serpent dit à la femme : non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles du figuier, ils s'en firent des palmes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : où es-tu ? Il répondit : j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. Qui t'a révélé, dit-il, que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ? L'homme répondit : la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme : qu'as-tu fait là ? La femme répondit : le serpent m'a trompée et j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit au serpent : parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu la meurtriras au talon.
Peut-être en rester là, parce que c'est le passage. On est toujours frappé, d'ailleurs, c'est peut-être mon côté un peu littéraire, mais de la beauté du texte, avec Dieu qui se promène dans le jardin.
Avec la brise du soir.
Avec la brise du soir, et puis ce jeu de questions, surtout, c'est très... pour le coup, Dieu interroge beaucoup. On est très frappé du dialogue... qui t'a dit que tu étais nu, etc. Et puis le serpent, dont on voit effectivement qu'il est une manière de penser le mal en dehors de l'homme et en dehors de Dieu. Alors il est aussi une créature de Dieu, mais le serpent existe avant la faute, donc on peut guère parler de péché originel d'une certaine manière, parce qu'il est déjà là. Voilà, il y a quelque chose qui peut-être dans la tradition occidentale a été un peu trop excessivement mis en lumière dans l'acte même de la consommation du fruit interdit. On voit bien que le drame est peut-être d'un autre ordre. Je reviens juste une chose sur ce que tu disais sur l'interdit alimentaire. C'est peut-être une digression, mais je ne pense pas que ce soit une. Tu disais effectivement, y a une lecture un peu positiviste qui est de dire que c'est des mesures hygiéniques... Voilà, on peut faire aussi une lecture symbolique. Moi, je me demande si la grandeur de la culture juive dans la tradition de la cacheroute, c'est pas l'arbitraire, justement. C'est que d'une certaine manière, les animaux avec le sabot fendu ou les crustacés, etc., est-ce qu'il n'y a pas justement une grandeur dans l'homme à créer des interdits, pas de manière perverse, mais à créer de manière presque esthétique, presque arbitraire, comme quelque chose de baroque, un ornement qui ne sert à rien, mais qui... voilà. Parce qu'ici, il y a quelque chose aussi un peu du même ordre. On peut se dire qu'il y a quelque chose d'arbitraire à interdire cet arbre, parmi d'autres. Vous savez qu'il y a aussi l'arbre de vie, etc. Puis il y a plein d'autres arbres. Et puis, il y a celui-là. Et moi, j'y vois un peu, mais parce que précisément, je suis aussi Adam, et nous sommes tous Adam, cette espèce d'intolérance à la frustration que nous avons lorsqu'on nous interdit un petit quelque chose alors qu'on a tout le reste et qu'on finit par ne plus voir qu'on a tout le reste, qu'on a énormément reçu d'une certaine manière, et on se polarise sur une petite frustration, un petit manque. Je pense que la société de consommation, d'ailleurs, enfin, c'est un cliché énorme que je dis, bouchez-vous les oreilles, mais je pense qu'elle fonctionne comme ça. Parce qu'il y a un moment où il y a une irritation de la petite chose qui nous manque, et c'est ça qui nous attire. Et c'est ça que Adam et Ève, parce que la pauvre Ève, effectivement, on a l'impression que c'est elle qui est fautive, mais en fait, vous avez vu, elle n'a pas encore été créée avant l'énoncé de quand on regarde l'intégralité du récit, l'interdit intervient avant sa création. Donc d'une certaine manière, elle arrive après la loi. Donc la pauvre, elle n'est pas si coupable que ça. En tout cas, elle est frappée par cet arbre, elle le part de toutes les séductions, c'est l'arbre qui attire et qui attise sa convoitise. Mais on peut se dire qu'effectivement, si c'était un autre qui avait été interdit, on connaît tous ça, les phénomènes de mode fonctionnent comme ça. Si c'était un autre arbre qui lui était interdit, il est possible que c'est celui-là qui aurait brillé d'un éclat particulièrement prestigieux et singulier. Donc, je me demande s'il n'y a pas... Alors, évidemment, la connaissance du bien et du mal, ça n'est pas rien, on va en parler. Mais je me demande si dans le petit apologue, il n'y a pas aussi cette espèce d'arbitraire divin, le fait du prince qui dit voilà, et qui du coup met en lumière, qui met à nu certains fonctionnements humains. Bon, c'est peut-être de l'anthropologie
non, mais c'est intéressant,
à la petite semaine, mais qui met à nu le fait que nous soyons si peu tolérants à ce qu'on nous refuse. Parce que j'imagine que le jardin était effectivement suffisant à nourrir toute leur faim et étancher toute leur soif.
Non, mais sur cet arbitraire, je crois qu'effectivement c'est intéressant. On le retrouve par exemple dans le choix, par exemple, de David, par exemple. On dit, mais pourquoi David ? Il y en avait qui étaient bien plus beaux, etc. Ben, c'est l'arbitraire de Dieu. Et donc le reconnaître comme étant la liberté de Dieu et respecter cette liberté qu'on ne comprend pas tout à fait. Donc il y a des lectures comme ça de ces
Jésus de ces qui textes, ses apôtres aussi,
de respect, de voilà, de cette sorte d'élection qui ne peut nous sembler mystérieuse, mais qui fait qu'on est unique aux yeux de Dieu et que c'est comme dirait Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, et donc cette sorte d'élection improbable, mais c'est aussi ça qu'on nous dit finalement quand il y a des paraboles de l'alliance comme des noces entre Dieu et nous, le cantique des cantiques, c'est que, comme l'amour, il y a quelque chose de complètement arbitraire qui fait qu'il y a un choix de telle personne, et bien Dieu est comme ça, et donc on pourrait dire les commandements alimentaires aussi, c'est arbitraire de Dieu qu'on respecte. J'y verrais aussi le fait de faire attention à la manière dont on vit, c'est-à-dire que quand on est juif pratiquant, on ne peut pas... vivre à la légère sans faire attention à Dieu à chaque instant de la journée pour pas faire un truc de travers. Donc c'est quand même un peu, bon, moi ça me tente pas du tout d'être dans ce type de prescription pointilleuse, mais en même temps on peut respecter cette attention à Dieu dans les petites choses de la vie quotidienne tout au long de la journée, et il y a là quelque chose qui est assez fort. Alors ici moi j'ai bien aimé ce que tu dis sur l'intolérance à la frustration. Je pense qu'effectivement, l'arbre qui est interdit, qui est au milieu, alors souvent on dit que c'est le même arbre, hein, l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal, puisque tous les deux sont au centre du jardin, et que par définition, un centre, il n'y a qu'un point, et donc qu'il n'y a pas la place pour deux arbres, il n'y en a qu'un, mais que cet arbre, c'est l'arbre L'arbre du divin, l'arbre de la transcendance, l'arbre de ce qu'on place au centre de notre univers, de notre horizon finalement. Et donc toute la question, c'est de savoir quel arbre on place au centre de notre jardin, au centre de notre adoration, au centre de notre univers et à notre nombril finalement. Si on prend comme centre de notre univers notre nombril, ben, en fait, la vie devient recroquevillée sur elle-même et que du coup, on est dans une sorte d'implosion de soi qui n'est pas tellement, tellement prometteuse. Donc, je ne crois pas que c'est « tu mourras » au sens où il va être condamné à mort, bien entendu, parce que Dieu n'est pas de cette eau-là, finalement, hein, de condamner à mort. Tu parlais du péché originel, comme si Dieu aurait voulu à l'humanité, de génération en génération, pour la faute de nos anciens aïeux, ou si une faute comme ça aurait pourri, je dirais, même jusque dans notre patrimoine génétique. C'est ce que s'imaginaient certains anciens. Moi, je trouve que c'est absolument abracadabrant, parce que si vous voulez, le péché d'Adam et Ève, c'est un petit peu le péché de l'enfant qui va attraper le pot de confiture pour se le goinfrer en douce dans un coin. Bon, c'est pas, ça se fait pas parce que la grand-mère a mis tout son amour pour faire le pot de confiture, qu'on lui a bien dit que c'était interdit, mais comme tu dis, bon, c'est pas non plus le péché ultime, tout ça. Et puis le péché de se prendre un peu pour Dieu, si c'était un péché, je dirais, sur lequel Dieu nous en voudrait pour les siècles des siècles, amen, ben, il n'aurait pas fini de se mettre en colère, parce que c'est pas demain la veille que c'est fini. Donc non, j'y verrai plus, moi. Le péché type, finalement, c'est le péché, c'est pas le péché originel, c'est le péché type.
Ben, il est originel en tant qu'il est originaire en nous.
Il est originaire en nous.
Il est enraciné en nous. C'est pas généalogiquement.
C'est pas généalogiquement. Ou même c'est, je dirais, le bébé quand il naît, de toute façon, ou la cellule au début, quand il y a une cellule et puis que plop, ça en fait deux, plop, ça en fait quatre. Bon, elle est complètement égoïste, centrée sur elle-même. La cellule, elle profite du substrat qui est autour, et puis elle essaye de profiter pour se multiplier et pour grandir. Donc elle n'est pas altruiste, elle n'est pas en train de prier Dieu, la cellule, et c'est normal, et nous sommes issus de cela. Donc nous sommes bien tirés de cette origine où on ne pense qu'à nous-mêmes, et où nous sommes le centre de notre univers. Et finalement, c'est ça que dit la femme. Toute la question, quand même, ici, aussi bien l'interdit que la tentation, c'est que autour du manger, finalement. Donc ça rappelle aussi quand même l'importance fondamentale, j'allais dire, de la manière dont nous allons nous nourrir. Et que le péché est quand même de l'ordre du manger, de la nourriture, de qu'est-ce qu'on prend pour vivre, pour avancer. Et donc finalement, il y a ces deux fruits, l'arbre de vie qui est au milieu, c'est l'arbre, finalement, c'est Dieu lui-même, c'est la présence de Dieu lui-même. On le verra dans Jean 15, c'est tout ce que Dieu nous donne pour nourrir notre être, pour la vie éternelle. C'est donc la parole, c'est l'amour, c'est, je ne sais plus ce qu'il y a dans Jean 15, on va le voir tout à l'heure. Hein. C'est sa joie, c'est le Christ, tout ce qu'on prend en nous, finalement, pour avoir la vie éternelle. Et puis l'arbre de l'autre arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, ça c'est un peu ambigu, cette connaissance du bien et du mal, mais on comprend mieux finalement dans ce que dit Ève, la femme. Alors oui, je crois pas qu'il y ait la femme soit plus coupable que l'homme ou je sais pas quoi, parce qu'on est à la fois la femme, l'homme et le serpent, évidemment. C'est la tradition, c'est que par exemple dans Origène ou dans c'est que la femme, ça représente plutôt le côté de nos sens, de notre sensibilité, et la partie mâle correspond plus à la partie spirituelle. Bon, alors je ne vais pas dire, si vous voulez, c'est là qu'il ne faut pas identifier aux hommes et aux femmes. C'est une façon de parler de différentes dimensions de nous-mêmes, mais évidemment, nous sommes... on ne peut pas nous couper en tranches ou nous démonter comme une montre avec des rouages.
C'est donc, le genre, ça, c'est la question du genre.
C'est la question du genre, voilà.
Du gender.
Et donc, c'est peut-être le côté, notre côté...
C'est toi qui l'as nommé.
Notre côté sentiment, si vous voulez, notre côté d'essence, qui va se précipiter, tête baissée, en disant, mais en fait, Elle vit que l'arbre était bon à manger. Ça montre bien, si vous voulez, qu'on est de l'ordre du symbolique. On ne peut pas voir que quelque chose est bon à manger. Pour voir que c'est bon à manger, ça ne se voit pas, ça se goûte, quoi. Et puis, comme elle n'a pas encore goûté, elle n'en prend qu'après. Comment voulez-vous qu'elle voit que l'arbre était bon à manger ? Bon, vous voyez, on voit bien que de toute façon, c'est abracadabrant. C'est à lire comme une prédication, évidemment. Hein. Donc, la femme... Quoi ?
C'est le serpent qui est coupable.
Le serpent est coupable, mais en même temps, le serpent...
Il est créé par Dieu, alors...
Il est créé par Dieu, il dit que du vrai, finalement. Oui. Parce que ce que dit le serpent, c'est parfaitement exact. Oui. Non, vous ne mourrez pas. Ben non, ils ne mourront pas. Hein. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ben, je veux dire, c'est le projet de Dieu du début de la Bible jusqu'à la fin, quand même. Puisque la première chose qui est créée, bon, c'est l'autre récit de création, mais c'est quand même la lumière. Hein. S'il crée la lumière, c'est la lumière pour voir, pour qu'on puisse ouvrir nos yeux et voir. Et Jésus passe son temps à guérir des aveugles, pas tellement à boucher des yeux, quand même.
Oui, il dit que des vérités, c'est vrai, tu as raison. Oui. C'est l'instinct voltairien qui dit « Oh, on vous a raconté des histoires, moi je vais vous dire ». Il y a un côté comme ça, oui.
Et vous serez comme des dieux, ben, je veux dire, c'est pile poil le premier récit de création. Vous serez comme des dieux, ben on sera à l'image de Dieu, c'est le projet quand même un peu. Donc, non, il a tout bon, le serpent, il dit vrai. Mais le problème, c'est ce qu'on en fait. Et là encore, la Bible, on dit que c'est certains disent que c'est la parole de Dieu. Ben oui et non. Hein. Parce que c'est la parole de Dieu si on le lit en mettant Dieu au centre. Hein. En cherchant Dieu, en voulant nous nourrir de ce qui vient de Dieu. Mais si ça peut devenir une parole diabolique. D'ailleurs, dans les tentations de Jésus, le diable, si je puis dire, ou le serpent, ou la tentation dans Jésus lui-même, il passe son temps à citer des paroles de la Bible, qui sont donc à ce moment-là pas paroles de Dieu, mais elles sont paroles du diable, je veux dire. Mais ici aussi, le serpent a tout juste raison. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on compte ne pas mourir ? Comment est-ce qu'on compte... ouvrir nos yeux, comment est-ce qu'on voit, avec quels yeux on voit finalement ? Est-ce qu'on vit avec nos yeux de chair ou les yeux de la foi ? Et comment est-ce qu'on compte devenir Dieu ? C'est la question. C'est plutôt la question, c'est comment on va le faire, mais le projet est exact. Alors elle, quels critères elle prend ? Elle voit que l'arbre, donc elle dit, ben, c'est bon à manger. Donc si c'est bon à manger, si c'est séduisant à regarder, si c'est précieux pour agir, c'est désirable pour avoir du discernement, pour avoir de l'intelligence. Donc elle prend finalement le bon, le séduisant, le désirable comme étant critère du bien et du mal. Donc elle prend son propre désir. Donc en fait, puisque ça, si elle représente notre côté sensuel, finalement. Encore une fois, les sens, c'est une super bonne chose. Ce sont des dons de Dieu, c'est quand même hyper pratique pour voir, pour goûter, c'est quand même pratique d'avoir des yeux, d'avoir le goût, d'avoir l'ouïe, d'avoir le toucher, d'avoir un corps pour faire des choses. Mais si on prend ce corps lui-même, la sensualité, les sens, les cinq sens, comme étant le critère du bien et du mal, si on le fait comme sujet de notre adoration, c'est-à-dire si on le met au centre de notre jardin et que c'est les fruits de cela que nous allons manger et dont nous allons nous nourrir à longueur de journée, de semaine et d'année, il y a comme un petit problème, en fait. C'est-à-dire que, voilà, pour se nourrir, on va se nourrir de notre propre folie, alors qu'elle pourrait être mise au service du bien si on adorait Dieu, en fait. C'est toute la sensualité, les sens, le corps et tout ça. Et si on fait de soi-même un Dieu, si on fait de son désir même un Dieu, c'est un peu ennuyeux, parce que du coup, d'un coup sec, on se retrouve, je dirais, à un jardin d'Éden qui est réduit à la dimension de notre nombril, en fait. Et donc, d'un coup sec, on se retrouve seul au monde, les uns contre les autres, bien sûr, puisque à ce moment-là, l'autre de vous devient insupportable. Et Le travail aussi devient insupportable parce qu'on est Dieu, si vous voulez. Quand on est, ne serait-ce que si on était Louis XIV, on ne peut pas concevoir d'aller faire la vaisselle, d'aller travailler. Donc, si on était Dieu, on ne peut pas imaginer devoir travailler pour vivre. Ça nous est insupportable. Il faudrait que le monde entier nous serve, finalement. Donc, je veux dire, la vie nous devient insupportable, lourde à porter. C'est le sens, à mon avis, de toutes les souffrances qui ne sont pas des punitions, mais qui sont simplement des conséquences du fait d'une vie où on se place soi-même, où son désir au centre de notre univers. Donc la question du manger, effectivement, est fondamentale. De quoi est-ce qu'on nourrit notre être pour vivre, pour espérer la vie éternelle, pour espérer embellir notre vie, pour espérer lui donner un véritable poids, un poids d'éternité, un poids de valeur, de dignité, etc. Si c'est simplement sur le plaisir, on a le droit au plaisir, c'est une bénédiction de Dieu, c'est pas en cause, on est dans le jardin des délices, mais si on fait de ça son horizon ultime, c'est un peu ennuyeux. Si on en fait son propre Dieu, si on se... ça marche pas bien, quoi. Voilà. Donc c'est une question de nourriture, être fondamentale, peut-être.
Oui, donc effectivement, puisque normalement on mange pour vivre, là on mange
pour mourir.
Mais au fond, cette mort, c'est la vie, avec sa finitude, avec c'est la vie.
Recroquevillée.
Oui, oui. Parce que justement, moi je me suis interrogé sur la connaissance du bien et du mal. Vous savez que l'arbre de la connaissance, souvent on dit l'arbre de la connaissance, tout simplement. Et vous connaissez aussi l'expression « la connaissance au sens biblique », on dit « connaître bibliquement ». Alors, quand c'est dit de façon un peu égrillarde, ça veut dire la sexualité.
Adam connu Ève, sa femme,
etc. C'est l'idée que la connaissance est engageante et qu'elle dit quelque chose de l'intimité. Ce n'est pas une pure théoria grecque. Donc, ce n'est pas seulement la connaissance au sens élitiste, au fond scientifique, donc lié à une éducation ou à une érudition, etc. Donc ça, on est d'accord, c'est une connaissance qui a partie liée avec la foi, tu l'as dit, c'est une connaissance pour tous, au fond. Et pourquoi connaissance du bien et du mal? Parce qu'on pourrait faire une lecture moralisante, et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Alors je me suis demandé, j'ai procédé par élimination, qu'est-ce qui est rendu possible par la consommation de ce fruit. C'est pas l'omniscience, parce qu'on a cru longtemps que la connaissance, c'était ça, une sorte d'omniscience qui rend comme Dieu. Bon, vous serez comme des dieux, vous saurez tout. Bon, c'est pas ça, ça n'a aucun intérêt. C'est même pas la sagesse, parce que d'une certaine manière, ils consomment le fruit et ils deviennent pas plus sages forcément, parce qu'on a présenté ça aussi quelquefois comme le jardin d'Éden, une sorte d'adolescence, un stade un peu où on est dans la toute-puissance, où on croit qu'on est tout-puissant, on est tout nu, etc. Puis un jour, on découvre qu'on est vraiment exposé, fragile, vulnérable, qu'on a honte et qu'on fait l'expérience de la perte de cette toute-puissance et que c'est donc une forme de sagesse, auquel cas la chute serait presque une bonne nouvelle, au fond, parce qu'on devient enfin adulte. Mais j'ai toujours trouvé ça un peu trop facile, parce que c'est une lecture possible, mais c'est une lecture un peu moralisante. C'est l'idée qu'il faut consentir à sa finitude et que tout va bien, qu'on est enfin réconcilié avec soi-même. Mais personne, François, on en parle quelquefois, personne n'est réconcilié avec sa finitude. On a un désir d'infini en nous. Voilà, on est un peu augustinien, donc quoi qu'on puisse dire sur le péché originel et sur ce qu'Augustin en a fait, mais de fait, alors, c'est pas l'omniscience, c'est pas la sagesse de reconnaître qu'on est mortel, c'est pas non plus le discernement moral, parce qu'à un moment, on parle de clairvoyance, etc., parce que le discernement moral, ça, si c'est pour juger les autres, c'est pas très intéressant, ou se juger soi-même de façon quelquefois terrible, ça peut être encore pire et névrotique et tout ce qu'on veut. Je me suis demandé si cette connaissance, c'était pas la connaissance de l'existence elle-même du bien et du mal, de découvrir qu'il fait partie du réel. Et ça, c'est intéressant parce que justement, l'existence du mal, en général, c'est l'argument que tous les athées opposent à la foi. Ils ont pas forcément tort, d'ailleurs, c'est intéressant. L'idée que rien ne puisse faire le poids face à l'expérience historique, existentielle du mal, on peut tout à fait comprendre. Et là, la Bible nous dit, mais au fond, c'est structurel dès le début. Et il faut en avoir une conscience. Il n'y a pas de foi sérieuse, ou alors c'est de l'apologétique pour enfants, mais et encore. Je pense qu'un enfant a une connivence plus grande avec la vérité. Mais c'est qu'il y a quelque chose, dès le début, qui est de l'ordre du bien et du mal. Et il ne s'agit pas de connaître le bien et le mal pour juger les autres, mais il s'agit de savoir que ça existe et que cette connaissance fonde notre conscience et que c'est un mystère qui habite en nous, que l'existence de ce mystère nous empêche de le percer, nous empêche de trouver une réponse, sauf à se tromper nous-mêmes ou à s'illusionner nous-mêmes, que ça fonde notre conscience comme une sorte de jardin secret inviolable. Et c'est ça la conscience. Pas seulement la conscience qui serait une ruse biochimique de la nature, de l'Homo sapiens, voilà, mais une conscience profonde que le bien et le mal existent et que effectivement l'animal n'a pas. Et que, bien sûr, évidemment, c'est un secret terrible, parce qu'en même temps, on peut être en connivence et être en complicité avec le mal, bien sûr. Mais ce secret inviolable, nous savons que certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises. Et au fond, quand on s'examine soi-même, c'est ça. La connaissance fondamentale que nous avons, c'est que nous savons que certaines choses sont bonnes et que d'autres sont mauvaises. Même si souvent on fait le contraire, ou on ruse avec nous-mêmes, ou on est indulgent, complaisant avec soi-même, parce qu'on, voilà, bien. Mais il y a cette connaissance profonde, et c'est une connaissance sur laquelle personne ne peut mettre la main. Même pas nous, on ne peut pas manipuler cette connaissance. Et pour moi, c'est vraiment une connaissance fondamentale, un secret qui fonde notre liberté et qui rend presque sacré et sanctuarisé notre conscience. Alors voilà, c'est un peu en ça, à mon avis, que accéder à cette connaissance n'est pas forcément une faute, mais c'est une lourde responsabilité parce que ça nous rend complices du mal qui existe. Alors, sur la question de la culpabilité judéo-chrétienne, parce qu'il faut quand même dire, on nous assène ça partout, la culpabilité judéo-chrétienne, d'une certaine manière, cette histoire de faute première, c'est assez libérant. C'est pas que ça nous dédouane, parce que ça nous rend responsables, mais pas forcément coupables. Mais en tout cas, c'est libérant au sens où c'est structurel. Donc il n'y a pas de quoi en faire un plat. D'une certaine manière, Rousseau aurait pu s'y retrouver. On dit toujours le péché originel, c'est saint Augustin. Il a jeté un voile de suie sur l'Occident et il faut se libérer, il faut redevenir païen et on sera enfin émancipé et heureux. Ce n'est pas vrai. La culpabilité judéo-chrétienne, elle est assez... Au fond, d'abord, il faudrait voir ce qu'on entend par ça, mais il y a quelque chose qui est libérant dans l'idée que le mal, ce n'est pas moi qui l'invente. Le péché personnel existe, mais il y a aussi un péché qui nous unit les uns aux autres, qui fait que certes nous sommes unis dans le bien mais aussi dans le mal, et que c'est ainsi depuis le début, et je crois que ça peut être quelque chose qui au contraire est un antidote à la culpabilité au sens naturel et païen. Parce que la culpabilité païenne est bien pire. C'est une culpabilité sans pardon. Ici, il y a un pardon possible, il y a un salut possible. La culpabilité de l'homme qui trimballe son... Enfin, là, il faudrait en parler à un psychanalyste, mais il y a des culpabilités, à mon avis, qui sont pas du tout judéo-chrétiennes et qui sont bien pires, beaucoup plus sans issue. Enfin, je sais pas, François, est-ce que... Mais mieux que ça.
Bah, non, mais la culpabilité, dans la clinique, vous avez des culpabilités effrayantes, et tous les cas, les structures cliniques ont des culpabilités différentes. Dans la névrose obsessionnelle, on a une culpabilité abominable, dans la paranoïa, vous avez le sentiment que tout le monde vous en veut. Alors il y a le pervers qui n'a aucune culpabilité quelquefois. Et c'est une des raisons pour lesquelles enfin, la psychanalyse dit que le pervers ne vient jamais consulter, sauf quand ça se détraque, c'est-à-dire sauf quand il ressent une culpabilité. Mais la plupart du temps, relisez comme Brutus le Marquis de Sade, il n'est pas du tout.
Il se porte bien, oui, oui.
Oui, oui, il s'en prend. Hein,
oui. Oui, oui, bien sûr.
Non, mais sur le problème. Je crois que là où le péché originel, mais j'adore Saint-Augustin, je suis un grand lecteur de Saint-Augustin, mais c'est bizarre parce que j'adore Saint-Augustin, je ne suis pas souvent d'accord. Mais mais non, j'adore Saint-Augustin, c'est vrai, pas tout à fait au sens premier du mot adoré, mais quand même. Donc, si vous voulez, je crois que le défaut, c'est quand même l'image de Dieu que ça donne, d'un Dieu qui garderait rancune ou qui serait prisonnier de cette sorte de... Je trouve ça horrible. Mais par contre, qu'effectivement, on n'est de toute façon pas fini, on est donc égoïste et centré sur soi-même, je crois que ça, c'est une réalité. Et donc que le mieux est devant. On est un humain en genèse, et donc on est imparfait, c'est clair, mais on se soigne. On est pardonné et on se soigne, et ça, je trouve que c'est quand même... ça, on n'est pas donc dans une sorte de culpabilité infinie du passé. Mais on se reconnaît effectivement pécheur, et ça, c'est quand même une expérience existentielle à faire, peut-être être un petit peu moins pervers sur les bords, c'est déjà un grand progrès. Moi, je me souviens, j'étais aumônier des prisons, parmi les violeurs, les pédophiles, ils n'ont rien fait tous. Alors on se dit, mais il y a quoi ? Il y a 50% d'erreurs judiciaires ? Je ne crois pas, et je ne crois même pas sûr qu'ils mentent tant que ça. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a un niveau, peut-être, bon, alors nous, on est peut-être, enfin, je veux dire... Il faut qu'on prenne quand même conscience, et c'est une expérience existentielle, que oui, on n'est pas parfait, mais qu'on peut se soigner, et qu'on est pardonné tel que nous sommes, on est accepté par Dieu, et on peut se soigner, c'est déjà pas mal. Donc,
vous avez le mot de Dostoïevski quand il dit « Ah, si Dieu n'existe pas, tout est permis. »
Karamazov, oui.
Le docteur Lacan a dit « C'est une grosse erreur, si Dieu n'existe pas, rien n'est permis. »
Voilà, c'est ça. Oui, et puis l'homme est complètement prisonnier de lui-même. Mais ici, quand même, le mal, il n'est pas si mystérieux que ça. Il y a deux causes ici qui sont données au mal, et je crois qu'effectivement, c'est quand même les deux causes principales de l'existence du mal. Ce n'est pas un grand mystère. Le premier, c'est que le jardin n'est pas fini. Donc le jardin est à garder, certes, mais à cultiver aussi. Et même il est à garder en le cultivant. Donc garder cette dynamique d'évolution... garder cette dynamique, c'est le garder, c'est le cultiver. Et donc la première cause du mal, c'est que le jardin n'est pas fini, et donc il y a du travail à faire, qu'il y a du chaos dans le monde, et c'est effectivement toutes les catastrophes naturelles, les maladies épouvantables, tout un tas de choses qui font qu'il y a du mal qui existe dans ce monde, et que c'est pas voulu par Dieu, et que Dieu y travaille, et qu'on est appelé à entrer dans cette équipe aussi. Et le deuxième, c'est quand même le mal qui est en nous et le mal qu'on peut choisir. Le mal qui est en nous, c'est il y a une part effectivement de ce chantier primordial qui appelle aussi à cultiver, garder le jardin que nous sommes, le jardin qui est l'humanité. Mais il y a aussi ce choix que nous faisons parfois en connaissance de cause de choisir le mal et de ne pas faire le bien. Quand nous n'arrivons pas, comme dit Paul, à faire le bien que nous voulons faire et nous faisons le mal que nous ne voulons pas, ça c'est plus de l'ordre du chaos, du jardin pas fini. Mais parfois, en connaissance de cause, on choisit le mal parce que c'est si bon. Quoi. C'est vrai, c'est ce que dit Ève, c'est parfaitement vrai.
Mais c'est bon.
C'est délicieux. Ouais. Quoi. Ouais. C'est délicieux de se prendre pour Dieu et d'en faire qu'à sa tête, ça fait un bien fou, temporairement. Parce que c'est quand même une adoration c'est une spirale descendante. Donc moi je trouve que là le mal est quand même bien cadré, mais effectivement il nous invite à faire connaissance de ce mal, et que le serpent, comme tu dis, ce soit le plus rusé des animaux créés par Dieu quand même, ben en fait il est au ras des pâquerettes, il bouffe la poussière, c'est une figure de ce qui est en nous, au ras des pâquerettes, qui bouffe la poussière, et qui dit vrai, mais qui nous tire du mauvais côté, et qui nous fait glisser, qui nous fait nous détricoter, qui nous fait peut-être aussi faire de la division à l'intérieur de nous-mêmes, et faire qu'en nous-mêmes, c'est plutôt qu'une mise en ordre et une culture harmonieuse qui produit de bons fruits, et bien ça soit un chaos qui soit source de souffrance et de mort.
Oui, il me fait penser au pharmacien dans Madame Bovary, vous savez, le fameux monsieur Homais, l'incarnation du bourgeois, qui ne dit que des vérités. C'est fascinant quand on lit Flaubert, parce qu'on a quelquefois un souvenir de ce personnage comme le personnage vraiment prud'homesque, stupide. Et en fait, il ne dit que des vérités, des choses que nous disons sans cesse, quand nous sommes complaisants avec nous, etc. On sait bien que, voilà. Et il y a quelque chose de terrible dans ne dire que la vérité. Parce que, oui, c'est la bêtise au sens de ce qui nous rend bêtes, de ce qui nous rend, qui nous fait ramper, qui nous fait manger la poussière. C'est assez frappant, quand on le lit. Avant qu'on passe à Saint-Jean, peut-être juste un mot, vous savez, sur cette femme qui s'appelle Marie Balmary, que certains connaissent, à mon avis, mieux que moi. Moi, j'ai pas beaucoup lu ses ouvrages, mais il y a deux ouvrages qui sont particulièrement connus. C'est Le Sacrifice interdit et puis La Divine Origine, dans les années 90. C'était une femme psychanalyste qui a créé des groupes. D'ailleurs, peut-être certains parmi vous ont fait partie de ces groupes de lecture biblique. Un peu comme Françoise Dolto, elle a essayé de faire de la psychanalyse à partir de la Bible. Et ce qu'elle dit du fruit interdit... Alors là, je le dis de mémoire, je n'ai pas retrouvé le livre chez moi, je l'ai en poche, mais c'est le refus de, enfin, l'interdit, le refus de l'altérité. C'est ça que il y aurait dans la consommation du fruit, puisque le fait de manger, Marie Balmary dit manger, c'est défaire la différence. Effectivement, quand on mange, on défait la différence. On fusionne, donc on est fasciné par la fusion. Et donc on n'est plus dans l'interdit. Ce qu'elle appelle l'interdit, c'est l'espace qui rend possible une parole et qui rend. Mais oui, c'est assez. Oui, lacanien. Ça marche en français en tout cas. Qui rend possible une parole et qui rend possible la différence. Alors évidemment, on voit bien qu'on peut manipuler Marie Balmary dans le sens de la différence sexuelle. Qu'on peut faire dire des choses sur la nature, etc. Mais c'est intéressant, cette fascination pour la fusion, d'autant plus que Jésus fera l'inverse, puisque lui demandera qu'on entre en communion avec lui, sans fusionner, d'ailleurs, c'est pas fusionnel, lorsqu'on communie au corps et au sang. Donc là, il y a justement un distinguo qu'on sera amené à faire. Mais donc, manger le fruit interdit, pour Marie Balmary, c'est refuser la loi de relation. C'est créer de la fusion ou favoriser la mainmise de l'autre sur soi, la captation, la prédation et donc la mort du couple d'une certaine manière. Les pervers narcissiques, là, on pourrait aussi... voilà. Donc finalement, pour elle, l'interdit, c'est quelque chose qui ne va pas nous amoindrir ou nous rapetisser, mais au contraire nous rappeler que nous sommes autres, que nous ne sommes pas Dieu, que nous sommes différents et que c'est aussi une bonne nouvelle, nous ne sommes pas Dieu, c'est ainsi... Et c'est peut-être une forme de perte d'innocence, mais c'est aussi quelque chose qui est bon de nous rappeler. Voilà.
On peut passer à Jean, parce que Jean, on avait mis Jean, parce que si vous voulez, déjà il y a l'idée des sarments que nous sommes finalement, qui sont greffés sur le cep, la vigne qu'est le Christ, donc il reçoit une nourriture du cep, du pied de vigne. Si on est coupé, on n'est pas nourri et donc on se dessèche. Donc il y a l'idée aussi de nourriture à travers cette image, et il y a l'idée de porter du fruit. On porte du fruit pour d'autres, donc être source de nourriture aussi pour d'autres. Et donc là, je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Vous voyez, la question est plus seulement la question de se nourrir, c'est quelle nourriture nous produisons pour les autres, et avec cet appel à prolonger la nourriture que nous recevons de Dieu en Christ pour devenir pour donner des fruits de nourriture pour mutuelle finalement, hein. Alors peut-être on peut lire ce texte, ouais, rapidement.
On peut lire peut-être une partie pour se rafraîchir la mémoire. Vous avez tous fait vos devoirs de vacances, vous avez tous lu moi j'ai redécouvert qu'on avait mis ce texte là
jusqu'au verset 17 peut-être. Voilà. Qu'est-ce qui peut nous le lire? Merci.
Aux vignes éternelles. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi, et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Il se dessèche, puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance, et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce qu'il fait, de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et ainsi tué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Voilà.
Merci Guillaume.
Merci beaucoup.
Alors évidemment, le contexte, je ne sais pas où ils en étaient, si c'était la poire ou le fromage, mais c'est un contexte de repas. Vous avez reconnu le chapitre 15, donc c'est la scène. C'est le dernier repas du Christ dans un contexte pascal. Ça n'est pas à proprement parler le céder pascal, mais c'est un repas qui est pris en tout cas dans une atmosphère pascale, puisque chez Saint Jean, la fête de la préparation de la Pâque, c'est le vendredi. Et Jésus meurt au moment où on prépare le céder et où a lieu l'abattage rituel des agneaux au temple. Donc il y a évidemment un symbolisme très fort chez Saint Jean. Donc ici on est la veille, ou en tout cas quelques jours avant, on ne le saura pas, mais enfin c'est présenté par Saint Jean comme la veille. Donc c'est dans un climat pascal ou pré-pascal, donc de la fête de Pessah. Donc il s'agit d'un repas, il faut imaginer un repas juif, au 1er siècle, avec l'importance de la culture gréco-romaine, hein, on est probablement allongé, n'en déplaise au tableau que nous avons quelquefois qui représente Philippe de Champagne, tout ça c'est très très beau. Et donc c'est un contexte de repas, et Jésus choisit de délivrer ce discours qui précède ce qu'on appelle la grande prière sacerdotale. Je ne sais pas si vous l'appelez aussi comme ça au chapitre 17, et il choisit effectivement de transmettre le sens ultime de j'aime pas dire le mot message, ce qui ne veut rien dire, mais de son enseignement et de la parole qu'il a incarnée auprès de ses disciples. Donc voilà, c'est pour planter un peu le décor. Il y a un climat sûrement très grave, très... C'est une reconstitution, évidemment, hein. Une reconstitution que les disciples font 50 ans après.
Alors, ce qui peut faire peur, c'est « en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Ça peut paraître terriblement arrogant, exclusiviste, mais on peut le lire comme ça, mais on peut le lire dans l'autre sens, en disant « hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc, visiblement, il y a quand même des personnes qui étaient non-chrétiennes et qui ont fait quand même des vraies choses. Ne serait-ce que, je ne sais pas, Abraham, Amos, Ésaïe, que sais-je, David, il y a des gens qui ont fait des choses. Et puis encore ça, c'est la tradition juive, mais on appelle même Cyrus, donc l'empereur perse, on l'appelle Christ dans la Bible. Donc si vous voulez, il y a des gens qui peuvent faire des choses quand même, en dehors de Jésus. Donc on peut le lire dans l'autre sens, on peut le lire... Il y a du christique, vous voyez, dans Cyrus, puisque même, voilà, puisqu'on l'appelle Christ avec un petit C minuscule, bien sûr, c'est pas the Christ, mais c'est un Christ. Donc il y a du christique dans Cyrus, ça montre bien que... Et donc ça, c'est plus en dehors du Christ, vous ne pouvez rien faire, en dehors de la façon, l'humanité dont Dieu rêve. Alors ici, l'humanité, finalement, c'est la vigne. Ça reprend la parabole, par exemple, d'Ésaïe 5, où le peuple de Dieu est comparé à une vigne. Donc là, la vraie vigne, c'est le Christ. C'est pas simplement Jésus de Nazareth avec ses sandales qui a fait un repas avec ses disciples, vous voyez. C'est ce qui s'est incarné dans Jésus. Vous comprenez ce que c'est un peu complet, c'est un peu fin, si vous voulez. Il y a un type d'humanité réconciliée avec Dieu, et réconciliée, c'est un peu l'humanité de 1 Corinthiens 12, quand Paul compare l'humanité au corps du Christ, à un corps dont le Christ est la tête, avec une multiplicité de membres différents qui sont unis avec des liens de compassion et puis avec des vocations personnelles pour chacun des membres. Donc c'est ça dont on parle, c'est ce Christ-là, c'est ce Christ qui est l'humanité dont Dieu rêve. Et donc la question, c'est d'être enraciné sur cette véritable humanité, sur qu'est le Christ, et qu'incarne, que révèle Jésus de Nazareth, l'homme historique réel. Donc je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron, donc on nous appelle à être enraciné dans cette humanité vraie. Que pour une fois, on peut voir dans Jésus de Nazareth et qu'on peut voir peut-être en trace dans telle personne, même peut-être dans Bouddha, bien sûr. Ou dans, je ne sais pas, dans Sœur Emmanuel. Moi, je la sancto subito pour Sœur Emmanuel. Moi.
Santa, même.
Santa subita. C'est
un problème de genre, c'est ça.
Non, parce que c'est une citation en latin dans le texte, hein, ou en italien dans le texte, je ne sais pas. Et donc, si vous voulez... Ensuite, les sarments. On peut voir finalement la nourriture qui nous est donnée, je pense, dans chaque fois qu'il y a marqué en vous, quoi. Quelque chose en vous, ça veut dire une nourriture que Dieu nous donne en Christ pour nous rendre plus en forme et faire que nous puissions porter notre propre fruit. Comme le dit le psaume 1er, je ne sais pas si on l'a mis, le psaume 1er, non. Le psaume 1er, il dit l'arbre qui est enraciné dans la parole de Dieu, quoi, auprès du cours d'eau qui est la parole de Dieu, il grandit, il est bien verdoyant et il produit son fruit en son temps. Il ne produit pas les fruits de Dieu au temps de Dieu, il produit son fruit en son temps. Ben là, c'est la même chose. Le Christ nous nourrit par la sève qu'il nous apporte, il nous nourrit, il nous abreuve. Si on n'est pas greffé sur lui, on se dessèche, on n'a pas de nourriture, il y a un dessèchement, et on ne peut pas continuer à être verdoyant, à avoir la joie, à avoir la fructification qui permet d'apporter des vrais fruits pour le monde qui en a tant besoin. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette sève, cette nourriture qui est à ingérer? C'est le Christ d'abord, hein, « Je demeure en vous », c'est au verset 4 par exemple. Il y a au verset 7 les « Mes paroles demeurent en vous », donc il y a l'idée de se nourrir de ses paroles. Alors ça, c'est une image qui est très biblique, hein, la mendication de la parole, la rumination de la parole. Ben, ou par exemple dans le psaume 1er, hein, qui murmure la loi jour et nuit, la parole de Dieu jour et nuit, parce que la parole, elle se disait à haute voix, elle se murmurait à haute voix. Sinon, il y a son amour, qui est son amour en vous, et puis la joie est en vous. Donc cette joie aussi du Christ, l'amour du Christ, tout ça, c'est une nourriture qui nous est donnée pour qu'on soit plus en forme, finalement. Et puis à ce moment-là, le résultat de cette nourriture, c'est que nous, on est en lui, donc on est peut-être incorporé au Christ. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça semble un peu abstrait, mais non, c'est peut-être se sentir, peut-être comme dans notre Père, finalement, frère et sœur des autres, se sentir concerné peut-être par, non pas par mon pain à moi, mais par notre pain, que c'est pas simplement mon petit papounet à moi, Dieu, mais que c'est notre Père. Enfin bref, on est incorporé par une préoccupation de l'autre, peut-être, hein, par une compréhension aussi que l'autre a sa vocation personnelle qui n'est pas la nôtre. Il y a des yeux, il y a des mains, il y a des pieds. Bon, chacun a une vocation personnelle et il faut tout ça, que ça communique et qu'il y ait une souplesse entre les différents membres pour que ça, quand même, que ça puisse fonctionner, circuler. Voilà.
Sur la question de... Oui. Parce que tu as commencé par ça, et je te rejoins complètement. Hein. Ouais. Lorsque Jésus dit « si quelqu'un ne demeure pas en moi », il y a vraiment il y a des conditions qui sont données. Et on sait très bien que ce long discours chez saint Jean, il est intensément dramatique, parce qu'on est à la veille d'événements encore plus dramatiques, donc il y a forcément une coloration, même si c'est écrit 50 ans après, à la fin du 1er siècle. Mais on est toujours frappé par le côté... non seulement dramatisé, mais exclusif et presque ultra communautaire, c'est-à-dire qui n'est pas avec moi et contre moi. On n'est plus dans l'appel du disciple ou la liberté laissée au jeune homme riche, etc. Là, il y a vraiment une condition qui est donnée quasiment pour le salut, etc. Juste après, il dit à Thomas, qui dit mais quel est le chemin ? Je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai prêché sur ça il y a quelques jours à des obsèques, devant un auditoire ou une assemblée sûrement mélangée, agnostique, etc. Et c'est difficile de faire entendre ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On peut y voir une prétention, tu as dit arrogance, etc. Une prétention presque totalitaire. En tout cas, l'homme contemporain, l'homme postmoderne, un peu flottant, il entend ça comme une prétention, une voix unique, exclusive de l'autre, et non seulement monothéiste, mais monolithique, etc. Alors, moi, je pense que forcément, c'est très beau, hein, moi j'aime beaucoup saint Jean, même si je vois qu'il met la barre très haut et qu'il met la pression, comme on dit, je pense que ça reflète l'expérience des disciples à la fin du 1er siècle, parce qu'il y a eu la persécution de la synagogue, la persécution juive, il y a eu la persécution romaine qui commence, hein, puisque dans les deux cas, les disciples du Christ ne se retrouvent ni dans la synagogue, surtout les disciples de saint Jean, enfin de Jean, qui sont à Éphèse, ont pris leur distance très nette avec la synagogue, prennent leur distance avec la culture païenne, mais ils sont gagnés par une tentation qu'on va appeler la gnose. Vous savez que c'est une tentation qui est très répandue encore aujourd'hui, qui est de dire « mais tout ça c'est magnifique, Jésus c'est... » Ah ben forcément Jésus c'est très beau, c'est un beau symbole, cosmique, c'est l'homme accompli, c'est... voilà. Et les disciples disent « mais attention, là on est en train de perdre... » On est en train de perdre la réalité de ce que nous avons vécu avec lui. On est en train de le faire entrer dans un système religieux extrêmement sophistiqué, qui évidemment utilise un langage qui vient de la philosophie grecque, donc très prestigieux, mais on est en train de perdre l'incarnation. Et c'est toujours ça l'obsession, à mon avis, de l'évangile de saint Jean, qui paraît quelquefois planer à 15 000, mais qui en fait est un évangile très incarné. Le Verbe s'est fait chair. Quand il parle de la parole ici, la parole que je vous ai dite, c'est pas seulement la parole que je vous ai dite, c'est la parole que je suis. C'est la parole que j'incarne. Et je pense qu'il y a une telle hantise de perdre l'incarnation que ça conduit les rédacteurs de ces textes à mettre effectivement l'accent sur cette vérité de la présence humaine réelle de Jésus parmi nous. Dès le prologue de saint Jean, bien sûr, il est venu habiter parmi nous, etc. On lit ça le jour de Noël, quand même. C'est quand même à Noël, si on ne va pas à la messe de minuit, si on va le jour de Noël, on entend le prologue de Jean qui est chanté, qui est splendide, que j'aimerais faire entendre en grec, d'ailleurs, comme on fait à Rome, c'est splendide. Et je pense, voilà, que ce côté qui peut nous sembler... exclusive, mais comme l'amour l'est dans une relation amoureuse, voilà, on va pas d'emblée botter en touche en cherchant une issue libertine l'unicité de la relation. On ne va pas dire, bah, au fond, bon. Donc là, je pense que ça reflète, dans le style, ça reflète la volonté, l'obsession des disciples de ne pas perdre le cap et de dire, voilà, si on en est là, si on dit ça, si on annonce l'évangile, c'est au nom de cette personne avec qui nous avons mangé. Avec qui nous avons mangé. Et c'est très important. Avec qui, on a dormi, on a mangé, on a vécu.
Je crois que c'est les deux, si tu veux. Parce que Jean, il est spécialiste, justement, d'une sorte de discours dialectique. Et donc, dans le prologue, Jésus, la parole est lumière. La parole, elle s'incarne en Christ, oui. Et cette lumière, elle éclaire tout homme. Donc, elle éclaire tout homme. Même les Esquimaux qui n'entendent pas parler de Jésus.
Bien sûr.
Elle éclaire tout homme. Et donc, ensuite, il y a marqué, il est venu chez les siens, les siens n'ont pas reçu, mais à quiconque l'a reçu. Donc, vous voyez, c'est dialectique. La lumière, elle éclaire tout homme, mais ils ne reçoivent pas la lumière. Personne ne le reçoit, mais à ceux qui l'ont reçu. Donc, vous voyez, c'est toujours les deux. Et pour cette appartenance, soit exclusiviste ou inclusiviste, à mon avis, c'est les deux.
Oui, c'est les deux.
Et on le voit, par exemple, dans la première lettre de Jean, il dit quand même « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ». C'est complètement inclusiviste. C'est-à-dire, quiconque aime, on ne peut pas dire que... il y a des tas de gens qui sont capables d'un peu de générosité, d'amour qui existe et qui n'ont jamais entendu parler, ou en tout cas à l'époque, ou qui n'ont rien à faire, ou même qui rejettent Jésus-Christ. On n'a pas... Le chrétien n'a pas le monopole du fait d'aimer, c'est clair. Donc, c'est extrêmement inclusiviste.
Et puis, il y a Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son
qu'il
fils.
A envoyé son fils
donc, il y a l'amour du monde, bien sûr.
Mais donc, si vous voulez, je pense que c'est les deux. Il dit en même temps, il y a de cette trace en quiconque, et hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, vous pouvez y reconnaître quelque chose de christique, qui renvoie donc à Jésus, qui est The Christ, qui est la manifestation ultime de cet essentiel que dont on pourra voir des traces à gauche et à droite. Donc je crois que c'est à la fois complètement inclusiviste en disant discerner, c'est ce que fait Jésus d'ailleurs avec, si vous voulez, le centurion. Le centurion, il est païen, il a un métier qui est épouvantable, mais Jésus a discerné en lui quelque chose d'une vraie générosité. Du cœur, un vrai élan incroyable, et il discerne là, il dit « j'ai jamais vu de si grande foi ». Et donc, c'est pas que le type soit chrétien, il est païen, il adore l'empereur comme un dieu, mais il discerne en lui quelque chose de christique, profondément christique, et donc le centurion n'est pas en dehors, il est en partie dedans.
Et nous sommes le centurion à chaque Eucharistie.
Et nous sommes le centurion.
Dis seulement une parole et
je serai
guéri.
Voilà. Mais donc je crois que c'est les deux, effectivement. Il y a aussi de l'inclusivisme en disant, c'est en Christ que se manifeste, c'est en Jésus de Nazareth que se manifeste ultimement et pleinement le Christ, même si on peut en discerner des traces. Et quelqu'un qui est fait un peu de bien, comme le centurion, ou qui a un peu de générosité, il n'est pas en dehors de lui, il est en lui, même si c'est sans le savoir parfois.
J'ai juste une dernière question avant qu'on termine, mais c'est sûr, déjà vous êtes émondé par la parole. Alors, je ne suis pas très bon jardinier, je sais qu'effectivement il faut un peu élaguer, il faut tailler. Émondé, ça veut même dire purifier quelque chose.
Là, c'est
mundus,
pur. Là,
hein, c'est l'idée.
Là, c'est pile pur. Hein. C'est pur. Hein. Le mot pur. Hein.
C'est oui, c'est ça. Mundus, c'est l'idée de.
Mais là, c'est pas émondé. Ouais, c'est émondus, c'est en latin, mais là, c'est kataros, c'est pur. Hein.
C'est kataros, oui, oui. Mais émondé vient de. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que on sait très bien que un arbuste, par exemple, si on ne le travaille pas, si on purifie pas, justement, mais le mot de pureté, enfin. On sait très bien que les sarments vont pousser un peu à travers, qu'à un moment c'est un peu à bout de sève, c'est pas très beau, et donc pour reconcentrer l'énergie vitale de. Je parle un peu comme un coach. Pour concentrer ce qui est accumulé dans la plante, il faut un peu. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Enfin, je joue un peu au candide, mais pas tant que ça, parce que qu'est-ce que c'est que cette parole qui émonde? Est-ce que ça veut dire qu'il les a un peu malmenés pendant les années avec les, pendant lesquelles il était avec eux? Est-ce que moi je me sens immondé quand j'ai été humilié par exemple par une situation? Alors je me console en me disant ah, ça m'émonde, donc voilà, je vais pouvoir fructifier. Mais ça c'est pas bien parce que Nietzsche dirait que c'est l'homme du ressentiment qui convertit son aigreur et qui veut absolument dire non, je voilà. Alors voilà, mais j'ai tendance à entendre ça comme ça et j'aimerais qu'on me prouve le contraire.
Mais c'est là que c'est ceux qui portent du fruit qui sont émondés, qui sont purifiés. C'est ceux qui supportent du fruit, donc c'est pas une punition.
Oui, mais la fructification, c'est la conséquence. Mais ils ont été émondés par la parole. Alors, cette parole, qu'est-ce qu'elle... Alors, c'est une parole de vie, j'entends bien, j'imagine bien que
c'est
Jésus,
moi, je l'aurais écouté. C'est ceux qui portent du fruit, tu vois. Celui qui porte du fruit,
oui.
Il est purifié.
Ah, par le fruit qu'il porte.
Il est purifié, et par le fruit qu'il porte, je pense qu'effectivement, c'est-à-dire que quand on produit, quand on est preuve, quand on peut faire preuve... Et c'est une bénédiction, effectivement, plus qu'une prouesse personnelle, de faire preuve un peu de grâce dans son existence, c'est-à-dire d'avoir des actes de pure générosité, ou qui portent les traces d'une vraie générosité, eh bien, je pense qu'il y a quelque chose de purifiant, de drainant, d'émancipant, quelque chose qui nous crée, qui nous élève, parce qu'il y a une sorte de circulation de la grâce. Et on ne peut être capable d'aimer un petit peu véritablement que dans la mesure où on a été aimé, en fait. C'est ce qu'il nous dit ici, hein. Cette sorte d'amour qui nous crée comme capable d'aimer. Donc si ce processus a pu fonctionner, il y a quelque chose de prodigieusement créateur, bénéfique, source de joie, etc. Et donc je pense que c'est parfois ce qu'on exprime dans une sorte d'échelle mystique, si vous voulez... je crois que les juifs sont un peu quand même sur ce registre, c'est que quand on fait des mauvaises actions, c'est pas que Dieu nous en veuille et qu'il va compter dans un grand registre, tiens lui, crac, mauvais point, c'est pas comme ça si vous voulez, mais quand on fait le mal, bon, ça fait du mal à ceux qui nous entourent, mais en même temps on se détricote un petit peu, il y a le chaos reprend de la vigueur en nous, et quand l'amour, la grâce peut circuler, eh bien, on monte un peu un barreau, en fait, dans cette échelle de l'évolution.
Oui.
On devient un peu plus humain, on devient un peu plus christique.
Il n'empêche qu'il dit, vous êtes émondé par la parole, ça veut dire qu'il y a, je ne vais pas dire efficacité, parce qu'encore une fois, Jésus n'est pas un coach, précisément, il ne cherche pas l'efficacité, mais il y a une fécondité, on va dire, une fécondité de sa parole. Et il suffit de lire l'évangile pour voir de quelle teneur elle pouvait être. Mais c'est le lien, cette fécondité dans sa dimension salvifique, c'est-à-dire en quoi elle sauve et en quoi elle fait fructifier. Est-ce que c'est par imitation, par mimétisme, par fidélité? On sait très bien qu'émondé, ça peut être émondé en nous, les traditions quand elles deviennent mortes, quand elles deviennent périmées, ou quand nos fidélités sont singées. Ou quand nous mimons l'amour, quand nous simulons l'amitié. Donc là, effectivement, c'est des sarments à bout de sève. Donc là, il faut émonder ça. Et je pense que Jésus nous invite à revenir au centre pour que nos rites ne soient pas justement lettre morte, etc. Donc il y a un travail sans cesse de retour à la sève. Et la sève, c'est une parole.
Alors ceux qui ne portent pas de fruits, c'est coupé, ça c'est clair, c'est coupé, c'est jeté au feu, c'est déjà sec, c'est coupé au feu, etc. Donc c'est à nous...
C'est rude quand même.
C'est rude, mais c'est pas, y en a pas un qui est un rameau tout sec et puis l'autre qui est un rameau plein de sève. C'est ce qui, en chacun de nous, est sarment sec et sarment portant des fruits. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la parole, c'est pas les mots prononcés par Jésus,
bien sûr.
C'est la dynamique la dynamique de création qui s'incarne en Jésus, oui.
Une question, est-ce que émonder, c'est pas éduquer?
Là, de toute façon, c'est une métaphore. Donc le jardinier, il a aussi un travail de veille, un travail d'attention. Il y a la métaphore pastorale qu'on connaît, le bon pasteur, le berger, et puis il y a le jardinier, c'est moins courant, mais là, c'est l'image du jardinier qui prend soin, qui protège, qui empêche les jeunes pousses d'être saccagée, d'être piétinée par le premier venu. Donc oui, il y a quelque chose de l'ordre d'une pépinière. Là, d'une...
Mais ça reprend complètement le jardin de la Genèse. C'est-à-dire que l'évangile selon Jean, il s'écrit quand même assez profondément comme un midrash, comme une relecture de la création, avec le prologue, bien entendu, qui est une relecture de Genèse 1.1, avec au commencement, bien sûr, jusqu'au jardin de la résurrection où Jésus est pris pour un jardinier. Et ce jardinier, c'est l'Adam véritable, si vous voulez, parce que le jardinier, c'est Adam qui est placé dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Et donc, je pense que là, il y a aussi quelque chose qui nous renvoie à la création d'Adam en nous. Donc, encore une fois, Adam, ce n'est pas un personnage du passé, c'est un personnage de l'avenir. C'est ce que dit le prologue aussi. Voilà, on sera fait enfant de Dieu, donc par la parole. La parole nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je crois que c'est cette genèse de l'homme qui est ici à l'œuvre. Et que Jésus nous révèle dans le présent de notre existence, de cet processus de conversion, processus de genèse de l'humain en chacun de nous et d'une humanité un peu réconciliée. Et moi, je ne vois pas l'humanité si noire que ça. Je pense que ce processus est à l'œuvre. Donc il y a des temps d'adolescence dans l'humanité qui ne sont pas forcément agréables à traverser et à vivre. Je pense que nous vivons une sorte d'époque d'adolescence, mais oui, il y a des crises d'adolescence qu'il faut bien passer pour grandir, mais je pense que voilà, il y a aussi des signes très encourageants dans l'humanité, de conscience écologique, de mondialisation, c'est-à-dire de perception des autres cultures comme ayant après tout une sorte de valeur. Je veux dire, il y a quand même des vrais signes, peut-être aussi de... Je dirais qu'il n'y a plus qu'un grand idéal, une grande utopie qui existe, c'est l'utopie croyante, spirituelle qui existe. Il y a là aussi quelque chose qui a été émondé quand même, peut-être un peu, et donc il y a cette véritable possibilité d'une humanité spirituelle qui peut progresser. Voilà, une humanité qui se considérait peut-être aussi un peu comme gardienne de la planète, du monde, de son frère. Enfin bon, moi je suis assez optimiste dans cette genèse de l'humain qui est à l'œuvre, même si c'est à travers les affres de l'adolescence. Après tout, c'est une maladie dont on guérit quand même en général. Pas toujours. Moi je connais des grands ados qui ont déjà largement perdu l'âge de voir pousser les dents de sagesse.
Merci Marc, c'est un très beau mot de la fin. Voilà, jardinier du monde. Et ne tombons pas, donc, comme disait le rabbin Wachnin, dans le complexe de la pomme qui nous conduit à rétrécir les textes. Vous voyez que les textes ont une signification infinie. Donc à vous de trouver la vôtre. Très bonne soirée. Bon retour.
23 novembre, rue de l'Oratoire, avec le repas de Mamré, le plat de lentilles, les agneaux aux herbes et le festin de Belshazzar.
Voilà, on sera déjà un mois avant Noël.
Merci, bon retour. Merci à toi.